franceinter.fr.
Elles sont des centaines dans chacune de nos cellules. Elles fournissent toute l'énergie nécessaire à leur fonctionnement et elles possèdent leur propre ADN. Les mitochondries sont également impliquées dans les processus de mémorisation dans notre cerveau. Et c'est ce que vous venez de démontrer, Giovanni Marsicano. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au Neurocentre Magendy à l'Inserm de Bordeaux et vous êtes co-auteur de ces travaux parus lundi dans la revue Nature. Alors, les mitochondries, est-ce qu'on a bien résumé ce que c'était, au fond, ces petites usines à cellules?
Oui, ce sont des organelles, comme on l'appelle, qui transforment l'énergie et l'oxygène dans des molécules qui sont utilisées par la cellule pour faire tous les processus nécessaires à la cellule.
Alors, cette découverte du rôle des mitochondries dans la mémorisation, vous l'avez faite en étudiant l'effet du cannabis sur la mémoire des souris. Expliquez-nous un petit peu votre expérience.
Oui, déjà en 2012, on s'était aperçu que les récepteurs du THC, qui est le principe actif du cannabis, qui s'appelle CBA, il est présent aussi pas seulement sur la membrane externe des cellules, mais aussi sur la membrane des mitochondries. Et à ce moment-là, on savait pas bien, on savait qu'elle était là, qu'elle était fonctionnelle, mais on savait pas bien à quoi ça servait. Et alors on a mis au point des outils génétiques et pharmacologiques pour voir, pour disséquer un peu la fonction du CB1 sur la mitochondrie par rapport au CB1 sur la membrane. Et on s'est aperçu que les effets sur la mémoire dans les souris, ils sont plus présents du THC, ils sont plus présents si on n'a pas les récepteurs sur la mitochondrie. Ça veut dire que l'activité de la mitochondrie altérée par le THC participe directement au processus de mémoire.
Ça veut dire que vous avez drogué certaines souris et d'autres pas alors?
Oui, on a drogué certains souris et d'autres pas, et certains des souris qu'on a drogué avec le THC, il avait les récepteurs sur la mitochondrie et autres il l'avait pas. Comme ça, et on a vu les effets sur la mémoire, sûrement dans les souris injectées avec le THC qui avaient les récepteurs sur la mitochondrie.
Quand on regarde le comportement d'une souris, comment on fait pour savoir si elle a perdu la mémoire ou pas?
Bon, il y a plusieurs tests classiques qui sont utilisés. Bien sûr, on ne peut pas demander à la souris si elle se rappelle ce qu'elle avait vu.
C'est compliqué.
Mais ouais. on peut observer les comportements. Dans notre cas spécifique, on a utilisé un test aussi très classique. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'objets. On a exposé les souris à deux objets identiques. Et après, le jour d'après, on a changé un objet. Et les souris, ils ont la tendance à explorer plus les objets, les choses qui sont nouvelles pour eux.
Donc ça, c'est à l'état normal, c'est sans avoir pris de cannabis.
À l'état normal, ils n'explorent plus l'objet nouveau. Et s'ils explorent le vieux objet et le nouveau objet dans la même façon, ça veut dire qu'ils ne se rappellent pas que l'objet vieux, il était déjà connu. Comme ça, ça montre l'effet qu'ils n'ont pas de mémoire. Comme ça, en condition normale, une souris normale explore plus l'objet nouveau. Une souris qui a une perte de mémoire, il va explorer les deux objets pour le même temps.
Est-ce qu'il faut, Giovanni Marsicano, une certaine dose justement de ce principe actif du cannabis pour déclencher ces pertes de mémoire chez la souris? Il faut y aller vraiment à haute dose ou pas?
Oui, dans ces cas-là, on a utilisé des doses qui sont plutôt hautes. Ça, c'est aussi intéressant parce que les effets du THC sont souvent biphasiques. Ça veut dire que des doses plus faibles ils peuvent donner un effet et des doses plus hautes ils peuvent donner un effet contraire. Et une des idées qu'on a, c'est peut-être que ce récepteur mitochondrial peut-être s'est impliqué dans les effets avec des doses hautes. Mais ça, on ne l'a pas encore bien investigué, c'est une hypothèse sur laquelle on travaille.
On l'a rappelé au début de la discussion, les mitochondries, c'est les usines à énergie de nos cellules. Est-ce que c'est à cause d'un manque d'énergie disponible que la mémoire est perturbée par le cannabis?
Ça, c'est une très bonne possibilité parce que le métier principal de mitochondries, c'est de produire cette molécule qui s'appelle ATP, qui sont utilisées par la cellule pour travailler. Comme ça, ce sont les molécules énergétiques. Mais c'est vrai aussi que la mitochondrie fait beaucoup d'autres choses dans la cellule et encore on ne sait pas bien exactement c'est quoi le mécanisme après la mitochondrie qui est impliqué dans la perte de mémoire induite par les THC.
Une question qu'on aurait peut-être dû vous poser plus tôt, mais est-ce que ces récepteurs au THC, donc le principe actif du cannabis, sont les mêmes chez la souris et chez l'homme ?
Ils sont similaires. Il y a très petite différence dans la séquence. Comme ça, c'est très bien conservé entre les espèces. Dans les mammifères, il y a très peu de différence entre les différents récepteurs.
Est-ce que justement on peut extrapoler à l'homme aujourd'hui ou pas en fonction de ses travaux sur la souris ?
Bah, c'est toujours difficile de faire un lien direct et absolu entre la souris et l'homme, mm-hmm. mais bien sûr, si on sait par exemple que le THC, le cannabis, il peut induire des problèmes de mémoire dans l'homme. Comme ça, les modèles de la perte de mémoire induite par le THC dans les souris, c'est quelque chose qui ressemble suffisamment proche à la situation dans l'homme.
Est-ce que d'autres effets du cannabis pourraient être expliqués par l'étude des mitochondries ? Je pense à la perte, non pas à la perte, à l'augmentation de l'appétit ou aux effets antidouleurs.
C'est des possibilités. Et bien sûr, cette découverte qu'on a fait en 2012 et maintenant on a un peu avancé sur ça, c'est ouvre quelque chose de nouveau parce qu'il n'y avait pas de récepteurs de type du même type de CB1 qui a été décrit avant sur la mitochondrie. Comme ça, l'idée que des autres effets du système du THC du cannabis peuvent dépendre de la mitochondrie est là et on va l'explorer. Une autre chose intéressante serait de savoir d'un point de vue physiologique, indépendamment de l'administration de cannabinoïdes, de THC, si la fonction physiologique du récepteur CB1 sur la mitochondrie joue des rôles importants et ça on va les faire dans les prochaines années.
Bon, bah vous avez encore du pain sur la planche, alors. Et vos pauvres petites souris n'ont pas fini de bosser, j'ai l'impression.
Oui.
Merci beaucoup Giovanni et Marsicano, directeur de recherche au Neurocentre Magindia à l'INSERM de Bordeaux et donc ses découvertes autour du rôle de la mitochondrie dans les pertes de mémoire associées au cannabis. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'aspartame qui favoriserait la prise de poids, cette nouvelle découverte à charge contre l'édulcorant nous vient des États-Unis. De nombreuses études avaient déjà montré que l'utilisation de ce faux sucre pour induire une perte de poids était définitivement inutile et inefficace, mais cette fois, les chercheurs vont plus loin et montrent que l'aspartame, en perturbant notre cycle de prise alimentaire et nos perceptions de la faim, favorise directement la consommation de calories, donc par voie de conséquence, la prise de poids, ce qui est un comble à méditer lorsque vous achetez donc une boisson allégée ou sans sucre. Une nouvelle protéine de fluorescence rouge pour explorer le vivant. Depuis les années 90, l'imagerie cellulaire a fait d'énormes bonds en avant grâce à l'utilisation des GFP, des protéines fluorescentes vertes, découvertes chez la méduse. Elles permettent de visualiser en microscopie des phénomènes biologiques directement dans les cellules, mais depuis, les scientifiques cherchent de nouvelles molécules, et c'est chose faite par des chercheurs grenoblois du synchrotron qui viennent de présenter M-Scarlet, c'est son nom, une forme de protéine découverte chez les coraux, et qui permet donc de colorer les structures biologiques en rouge vif et avec une brillance bien plus importante que toutes les techniques de fluorescence actuelles. Et puis pour terminer, le crabe cocotier peut vous broyer les os d'une simple pichenette. Étonné par la force surprenante des crabes géants de l'île d'Okinawa, capables d'ouvrir des noix de coco à la seule force de leurs pinces, et bien des chercheurs japonais ont essayé de déterminer précisément la puissance disponible dans leurs pattes pouvant atteindre plus de 50 cm. Après avoir mesuré la force de 29 spécimens collectés dans la nature puis relâchés, ils concluent que leur force est proportionnelle à leur taille et que les plus gros crabes spécimens ont une puissance de 3500 newtons, ce qui correspond à 10 fois la force de vos mâchoires et qui surpasse donc celle de la plupart des animaux terrestres.